arrive à franchir cette atmosphère.
Le sport aussi. Nous qu'as chanté
Voilà, avec un petit extrait de Daradji, tout droit venu du Sénégal, qui nous a rejoint dans les studios, qui nous ont rejoint, puisque Daradji Family, c'est deux frères. Moi, je me souviens vous avoir rencontré il y a 4 ans à Aubervilliers, en région parisienne. Vous aviez fait un petit concert pour des lycéens. Ouais. Et je me souviens très bien de cette chanson aussi que vous partagez avec Sergent Garcia sur votre album. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Étienne.
Bonne mémoire.
Et à Aymeric.
Bonsoir.
Messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, merci d'être là.
Bonsoir.
Déjà, on entendait un petit extrait de cette chanson Esperanza que vous avez joué tout à l'heure sur la scène. Ouais. C'est spécial de la jouer dans un festival qui porte le même nom que la chanson.
Ouais, c'est spécial. Dans la mesure où, pour nous, Esperanza, ça traduit l'espoir. Et justement, à travers nos voyages, on a tendance à partager avec le public. Donc on s'est dit voilà, pourquoi pas rajouter ce morceau sur le tracklisting vu qu'on débarque fraîchement de Dakar et qu'il fallait juste apporter de l'espoir.
D'habitude voilà. Vous la jouez pas sur scène celle-là, vous la jouez plus
depuis depuis quelques mois en fait parce que là il y a un nouvel album qui est sorti. Yeah. Donc il faut noter que Esperanza c'est extrait de Boomerang qui est sorti en 2003 quand même.
Ça
donc,
fait ça date ça commence
ouais,
à dater.
Ça commence à dater donc il fallait se rafraîchir les mémoires un peu.
Et le public, il a été réceptif quand vous avez commencé à chanter ça?
Ah super, super moi réceptif. J'ai
Il la connaissait un peu? Certains la connaissaient?
Il la connaissait très 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 bien. Et c'était surprenant même de voir qu'ils avaient tous enlevé leurs chaussures, qu'ils montraient comme ça en l'air. Et je pense que c'était la meilleure partie du concert.
C'est un signe ça, enfin, vous l'avez pris.
Oui, ça colle bien avec, le concept de Portunda. Ouais. Parce que pour nous, quand on chante Portunda, c'est justement un morceau qui parle de partage. Mmh. Aujourd'hui, quand on parle de partage, on a tendance à nous débarrasser de tout ce qui est matériel. Mmh. Et justement, c'est symbolisé par le fait d'enlever les chaussures.
Mmh. Wow. Dans vos textes, c'est pas toujours en français, c'est pas dit tel quel. Mais les gens, ils ont capté, quoi.
Exact.
Oui, ils ont capté. Et je crois que c'est justement la force de la poésie Wolof. Et parce que tout le monde sait que aujourd'hui le premier président au Sénégal c'était un poète et donc je crois qu'il a laissé pas mal de choses et justement au Sénégal vous allez voir qu'il y a on a beaucoup d'écrivains, on a des historiens comme Cheikh Diop et tout ça. Donc je crois qu'il y a une force réelle de la poésie wolof et même si les gens ne comprennent pas, il y a la vibe quoi. Et justement, on joue beaucoup sur ça, sur sur la tonalité des musiques et sur les sensations, quoi.
Mais vous faites donc Boomerang, puisqu'on parlait de l'album. Donc l'idée, c'est que la musique voyage. Et vous le dites, le rap, d'où vient le rap d'Afrique. Mmh. Alors comment est-ce que la musique voyage et revient chez elle, puisque c'est ça l'idée du Boomerang. Enfin, c'est parti d'Afrique. Vous êtes allé un petit peu en Jamaïque avec le reggae, la soul, les musiques américaines. Mmh. Et puis maintenant, enfin vous revenez à l'Afrique. Enfin vous.
De manière historique, déjà, il y a eu le phénomène du griotisme qu'il y a eu en Afrique, même bien avant les périodes sombres de l'esclavage. Et notre théorie part du fait que, justement, ces griots ainsi que leur culture a été transportée dans les caravelles, dans les négriers pour aller aux États-Unis. Et c'est là que, justement, a commencé toute cette panoplie de gospel, negro spirituals et même du blues qui, justement, a permis à Kool Herc, un des premiers DJ qui est venu de la Jamaïque et qui a un peu donné le ton pour le sample, de sampler des musiques de James Brown, qui à la base viennent du R&B, et le R&B, tout le monde sait que ça vient du Negro Spirituals. Et nos théories partent de là pour dire que justement, cette musique, le rap est né des plantations. Donc les descendants d'esclaves, eux, ont influencé sur le rap. Et raison pour laquelle les premiers Américains qui sont lancés dans le mouvement rap avaient des noms africains. Zulu Nation, Africa Bambaataa. Et c'est la théorie par laquelle nous partons pour dire que oui, là-bas a grandi le rap et que maintenant le rap est partout dans le monde, dans, aussi bien dans les villages que dans les grandes villes. Là-bas, à Conakry, Bamako, partout.
Ouaga.
Exactement. Donc cette musique griotte et moderne pour nous a fait le tour du monde justement pour nous revenir un peu électronique. Mais nous sommes en train justement de trouver la balance entre cette modernité et donc sa culture, ses racines. Raison pour laquelle nous incorporons aussi bien le griotisme à l'état pur, en parlant des formes rhapsodiques et anciennes du rap, comme le tassou, le kebetou, le bakou, qui sont toujours développés chez nous, que nous mélangeons aussi avec de la musique électronique et un peu de balafon, un peu de kora, un peu d'instruments de chez nous.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2003, justement, depuis Boomerang? Déjà, vous dites que vous êtes resté à Dakar, hein, c'est ça? Vous n'êtes pas parti en Europe?
Ouais, on a bougé. On a dû bouger. Et il y a eu beaucoup de tournées depuis 2003, de 2003 à 2006. Mm. Parce qu'on a eu à faire
le Japon,
les États-Unis.
Ouais. Avec Wyclef, ouais, voilà, en tournée, Mos Def,
voilà,
LA.
Voilà.
En Afrique.
Femme Kuti.
En Afrique, vous arrivez à tourner?
Ouais, en Afrique, on arrive à justement, on a été dans des projets comme les festivals de Ouaga Hip Hop, Gabao Hip Hop. Donc, c'est des festivals qui sont bien installés en Afrique et ça nous permet de bouger un peu. Sinon, on a dans la sous-région, ça bouge quand même entre la Guinée et le Mali. Donc, il faut pas oublier que aussi Dakar, c'est une plaque tournante de la musique hip-hop. Et il y a 2 ans de cela, on a fait un projet avec des musiciens comme Manu Gallo, des musiciens de la France qui sont venus faire des ateliers avec le festival Banlieue Rythme.
Ouais.
Banlieue Rythme. Et donc, on s'est permis d'aller en Espagne pour porter ce projet avec d'autres artistes. Et donc, ça nous a donné un peu plus d'idées par rapport à ce nouvel album.
Il y a même, je me rappelle, il y avait aussi le truc qu'on avait fait avec Damon Albarn.
Justement, African Express, voilà.
Avec Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers. Ouais. Et c'était entre un projet Lagos, aussi entre Lagos et Londres.
Voilà.
Ça aussi, ça a influé un peu sur le projet d'album qui est sorti maintenant.
Énormément de musiciens africains, de chanteurs, d'interprètes africains qui ont l'occasion justement de travailler avec des gens d'Europe ou des gens des États-Unis ne reviennent pas dans leur pays. Vous êtes un des rares groupes à être resté sur place dans votre pays avec un autre monsieur qu'on a reçu nous il y a je crois que c'était l'année dernière, Tiken Jaffa Coli, qui a encore son studio
Mali,
à Bamako.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi de rester en Afrique alors que vous auriez pu émigrer, accéder à d'autres ressources justement pour votre musique?
On nous la pose cette question tout le temps, ouais, ça revient.
J'imagine.
T'es pas très original.
Ouais, voilà. Non mais c'est une question intéressante.
La tentation est grande pour beaucoup.
Ouais, c'est une question intéressante, d'où le titre qu'on a fait sur le dernier album, Gates of Freedom.
Ouais.
Qui parle des portes de la liberté. Et pour nous, la liberté, elle est partout. Elle n'est pas seulement en Afrique, elle n'est pas seulement en Europe, elle est partout. Et c'est une liberté qui voyage avec nous-mêmes. Et justement, j'ai eu il n'y a pas longtemps un petit clash avec un rappeur sénégalais qui est installé aux États-Unis. Et donc, il me disait, que le rap africain n'avait pas autant décollé et tout ça. Et donc, je lui expliquais qu'en fait, la nouvelle scène a besoin de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voyager, mais je crois que on a le droit de partager nos expériences avec les jeunes du pays, quoi.
Moi, je pense qu'aussi, je vais juste rajouter qu'il y a eu un phénomène qui est super grave, et c'est le fait que les dirigeants africains eux-mêmes n'ont pas développé le rêve africain. C'est-à-dire qu'on nous a souvent inculqué une culture, la culture d'Occident, parce qu'on est d'abord, il y avait le président Senghor qui était super français, même après il est allé à l'Académie française, et après il y a le président Ouad, il y avait même Diouf,
ouais.
Et on voit que chaque fois il y a une étroite, il ne reste pas en fait. Voilà, et puis il y a une manière française d'imposer les choses, et je pense que ça a contribué massivement à changer un peu le mental pour que beaucoup se disent ah tiens, donc le rêve se trouve ailleurs.
Vous disiez tout à l'heure la scène africaine, la scène rap a besoin de nous. Ça se traduit comment au jour le jour? Comment vous faites pour appuyer les groupes locaux?
Ça se traduit par un label qui s'appelle Bois Sacré, et donc qui nous a permis de produire des jeunes de la place, tels que Makanji, qui ont sorti leur album il y a près de 2 ans. On a pu lancer la carrière d'un jeune MC très connu de Dakar, un gars qui fait du battle et tout ça, il s'appelle Calabas. Et donc, je crois que on continue à monter cette plateforme. Et justement, ces jeunes, ils ont besoin de plateforme. C'est des gens qui viennent des régions, des banlieues et tout. Et donc, ils n'ont pas vraiment de moyens, quoi.
Ils peuvent vivre de la musique au bout d'un moment, rien qu'avec la scène dakaroise, sénégalaise ou africaine?
C'est pas évident au départ. Et justement, ils ont besoin de plus. Ils ont besoin des études. On le rappelle ça. Ils ont besoin de beaucoup de connaissances pour faire de la musique. Et aujourd'hui, nous, on a eu à le prouver parce que on était à l'école jusqu'à nos études supérieures. Mmh. Et on le rappelle à chaque fois, il faut quand même aller loin dans les études et le faire avec la musique. C'est très important.
Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte justement que le talent seul ne suffit plus. Mmh. Justement, il faut une organisation autour du musicien pour projeter au mieux la voix de l'artiste.
Ouais. Et justement, l'exemple est donné avec... je veux dire, il n'y a pas que nous, il y a des labels Bois Sacré, il y a des gens, ils ont l'exemple d'Awadi avec Sankara. Tout le monde voit que, je crois qu'on a été très indépendants parce que le hip-hop au Sénégal s'est fait tout seul. C'est-à-dire, en 10-15 ans, on s'est fait notre place parce qu'avant, il y avait des gros labels de Youssou N'Dour, Studio 2000, et c'est eux qui contrôlaient la musique. Donc, il fallait quand même qu'on se fasse notre place. Et aujourd'hui, ça va de la production jusqu'à la distribution, c'est contrôlé par le hip-hop.
Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, ben, se faire suivre aider les jeunes. Enfin, aujourd'hui, vous avez parlé des enfants. Let the children find their way.
Ouais.
Ça a à voir avec ça. Enfin, parce que vous dites let them find their way, comme si il faut les laisser faire. Mais en même temps, si on peut aider, pourquoi pas, quoi.
Ouais. Dans le refrain, on a énoncé en fait deux problèmes. Parce qu'on dit give them the food and let them grow. Tell them the truth and let them know. Parce que pour nous, en Afrique, on a deux problèmes. Le premier, c'est l'autosuffisance alimentaire, qui fait que justement, il y a toujours la faim. Et que de plus en plus, on se rend compte que des villes comme Dakar coûtent de plus en plus cher. Et donc, inacceptable pour une bonne partie de la population. Et l'autre problème que nous avons, c'est surtout l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation est un peu bafouée. Un peu bafoué parce que l'État sénégalais actuel investit plus sur la politique que sur l'éducation. Et donc, ceci fait qu'il y a vraiment une marge qui ne voit pas ses études aboutir. Et donc, ceux qui ont la chance et qui ont des parents plus ou moins aisés peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles mieux présentées, mieux plus présentables, ou bien des écoles d'Occident. Oui, alors que la majorité, justement, a encore un gros problème d'éducation.
Et il y a aussi des problèmes d'orientation, parce que comme je donne l'exemple à chaque fois, vous descendez à Dakar, vous allez voir plein de jeunes qui ont des petites boutiques, qui réparent des portables. Mm-hmm. Et c'est des gens, ils sont autodidactes, ils ne l'ont pas appris. Donc moi, je me pose des questions, je me dis, mais il y a un problème d'orientation par rapport aux études. Tu vois, moi, j'ai fait des études de comptabilité, aujourd'hui, je suis musicien. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau africain. Et aujourd'hui, heureusement, on a Internet. Et je crois que c'est quand même le moment d'en profiter et d'apprendre un peu plus, quoi.
On parlait cet après-midi justement hein, de l'alimentaire, de la souveraineté alimentaire qui est hyper importante encore plus en Afrique puisque 70%, 70% des gens sont et font de l'agriculture. Ce qui est marrant, c'est qu'à Dakar et au Sénégal, vous avez Diouf qui est à Rome à la FAO, donc à l'organisation qui s'occupe de ça pour l'ONU. Ouais. Vous avez le Freddy Angouad qui, sous la pression de son peuple, a dû quand même intervenir contre les accords de partenariat économique. Ouais. Comment vous voyez-vous le schéma africain? Vous êtes sur la même longueur d'onde, encore une fois, que Tikenja Fakoli, que cette Afrique doit s'unir entre pays plutôt que être disparate. Pour l'instant, on a vraiment l'impression que l'Afrique du Sud et le Sénégal restent deux pôles quand même importants avec quand même le Mali. Au niveau de l'Afrique, vous attendez encore autre chose d'autres pays?
Mais absolument, moi je pense que c'est, comme on dit, l'union fait la force. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut pas prétendre à une union générale de l'Afrique, mais au moins à des petites unions. Je veux dire, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, il y a le Maghreb, il y a l'Afrique du Sud. Moi, je crois que économiquement, on peut beaucoup gagner. Et justement, il y va aussi de l'intervention des pays européens qui doivent, je dirais entre guillemets, abandonner un peu ces pays à leur sort, parce que pour moi, le plus important, c'est d'avoir une indépendance, une indépendance économique et une indépendance politique. Et justement, on le rappelle dans nos morceaux, et je crois qu'on est tous dans cette même dynamique, que ça soit Tiken ou Alpha ou Awadi ou les autres. Je crois que le plus important, c'est de donner la chance à la nouvelle génération. Il y a pas longtemps, on était allé à Niamey et on discutait avec les jeunes. Et on leur disait, est-ce que vous vous rendez compte de la richesse des terres ici? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais en fait, les gens ne sont pas sensibilisés. Et justement, je crois que il y va des politiques, de sensibiliser les jeunes et de les mettre sur la bonne direction, sachant que il faut les instruire à utiliser les ressources qui sont sur place.
On écoute peut-être un petit extrait de votre travail. Qu'est-ce que vous en pensez?
Yes. Emery, si on arrive à avoir la sélection.
Yes.
Mais oui, on va y arriver.
Bob Sabop.
Ah. Bob Sabop. C'est ça, Emery.
Ouais. Les Daradji, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après.
C'était tout à l'heure, côté court.
Radio Esperanza.